Une nouvelle semaine en votre compagnie, c'est une joie de vous retrouver. Merci de nous faire confiance. Ce premier numéro du Club de la Presse est mis en onde par Michel Tomega. Jiro Akucha sur la mise en ligne. Cette émission est écoutée à l'intérieur du pays à travers Radio Lumière à Nehor, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassar, Sama FM à Niamtougou et Radio Courtoisie à Dapan. L'émission est également suivie en ligne via les différents canaux numériques de Canal FM et chez nos partenaires Ibn Radio et Radio Le Bénin. Nous accueillons pour le débat de ce jour Jacques Diakouti. Bonjour Jacques.
Bonjour Fousseni, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM. Je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter mes meilleurs voeux à chacun, à chacune des Togolais et Togolaises que nous sommes. Que la grâce divine soit sur chacun et que les attentes des uns et des autres soient comblées. Et prier également pour la paix dans notre pays. Prier surtout pour la paix de nos compatriotes qui sont à l'intérieur effectivement du pays, nos forces de sécurité et de défense qui se battent jour et nuit pour la sécurité de notre pays, que Dieu effectivement étende sa main sur eux.
Amen.
Chrétien que je suis, c'est que la parole de Dieu déclare que si l'Éternel ne garde une ville, ceux qui la gardent gardent en vain. Et je voudrais effectivement que le parapluie de Dieu soit sur ce pays cette année. Et que les attentes des uns et des autres soient comblées. Et prier également pour les familles, les femmes, les hommes qui attendent certainement peut-être un enfant dans le foyer. Ma prière est que cette année, Dieu ouvre les portes pour que ces femmes aussi puissent allaiter. Et les hommes également qui sont là dans un célibat endurci, qui puissent également sortir de ce célibat et puissent se marier cette année. À la corporation des journalistes. Oui. Vraiment beaucoup de chance, beaucoup de courage à chacun d'entre nous et profiter de l'occasion pour présenter peut-être les excuses aux auditeurs, peut-être dans nos propos au cours de l'année passée. Nous avons eu à blesser certains et leur présenter nos excuses. Une fois encore, nous avons commencé une nouvelle marche. Ma prière est que Dieu commence avec nous et qu'il continue toujours avec nous.
Amen. Merci Diakouti. Uriel Enyang du journal Méga Info. Bonjour.
Bonjour Fousseni, bonjour à tous les auditeurs, toutes les auditrices de Canal FM. Un jour spécial, je voudrais d'abord souhaiter que les fêtes de fin d'année, les fêtes de fin de carême, toutes les fêtes là, Tabaski, Ramadan, ne tombent plus sur le lundi parce que lundi c'est notre journée sacrée. C'est la journée de notre parution. C'est la journée où on se retrouve sur la nouvelle génération. Voilà, ceci dit, ça nous complique vraiment la tâche. Depuis le premier, nous voici au 8, avant qu'on saisisse l'opportunité pour présenter les vœux à tout le monde. Donc, vivement que Dieu fasse autrement, que les autres fêtes tombent sur les autres jours, pour que d'autres aussi puissent sentir ce que nous avons déjà senti.
D'accord. Uriel Enyang du journal Méga Info. Didier Assoba du journal en ligne Togo Brick News. Bonjour Didier.
Bonjour Fousseni, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM. Bonjour aux aînés et bonne année en même temps à eux en studio ici, à tous ceux qui sont ici, à toi-même, aux techniciens Michel et Géraude. Je dis également une excellente année à toute l'équipe de Canal FM, à la direction, à notre parrain de l'émission, Sass Gaou, qui nous écoute certainement, à tout le personnel de Canal FM. Et je dis profiter également pour souhaiter une excellente année à tous les Togolais où qu'ils se trouvent, que ce soit sur le territoire ou à l'extérieur du territoire. Excellente année à chacun de nous et que le Seigneur veille à ce que nos vœux et nos désirs puissent s'accomplir cette année.
D'accord, merci Didier Assoba. Merci à vous tous de répondre à notre invitation. Nous démarrons le débat dans un instant. Nous allons parcourir deux articles dans Méga Info de ce lundi. Le premier fait référence à un décret présidentiel relatif à la nomination d'un nouveau directeur général de l'ANAC, Agence nationale de l'aviation civile. Méga Info titre, opération aérienne. Lieutenant-colonel Idrissou Ahabou Abdou aux commandes de l'ANAC. C'est ce que écrit le journal Méga Info. Le colonel Dokissim Lamagnata qui quitte la direction de l'ANAC après 17 ans. Il était en poste depuis 2007. Uriel Eyang, est-ce la destitution ou le départ à la retraite du colonel?
Non, pourquoi parler de la destitution? Je pense qu'il a pleinement joué son rôle. Il a réussi sa mission. Et lorsqu'on se réfère à la mission confiée à l'Agence nationale de l'aviation civile, je pense que le colonel Dokissim Nyamalata a réussi. Il a pleinement réussi parce que ce sont des millions et des millions de vols qui se sont déroulés en sa présence au cours de son mandat. Et nous n'avons pas connu des dégâts. Quand on parle des dégâts, c'est des crashs, c'est tout ce qu'il y a comme catastrophe sur l'aéroport, dans les airs, à destination. Mais au cours du mandat de ce monsieur, nous avons plutôt constaté une mission réussie. Tout le reste, ça ne nous concerne pas. Parce que ce n'est pas nous qui l'avions nommé là-bas et nous ne savions pas quand est-ce que prendrait fin son mandat. Donc aujourd'hui, il quitte ce poste, à mon avis, la tête haute, parce qu'il a réussi sa mission. Ce qui est essentiel, c'était d'assurer des voyages efficaces, des voyages sans accident, des voyages sans crash, des voyages sans difficulté. C'est en l'air, comme lui-même a l'habitude de le dire, dans les airs, il n'y a pas de station pour que lorsque si un avion a un problème, il puisse garer en attendant. Mais ils ont pris toutes les dispositions. Moi, je lui dis félicitations pour la mission accomplie et bonne chance au lieutenant-colonel Idrissou qui arrive. C'est une mission très délicate. Je pense qu'il ne se laissera pas distraire par de n'importe quoi et j'ose croire qu'il assumera aussi bien sa mission pour que l'aéroport Niassimbe Yadema connaisse de beaux jours comme on l'a connu, que les vols soient toujours en permanence pour les voyageurs, que les avions soient en bon état, que le Togo sous son mandat, le lieutenant-colonel Idrissou, ça c'est un souhait, ça ne dépendra pas de lui, mais de ses initiatives, on pourra avoir de nouvelles compagnies de transport aérien pour que le Togo, comme le gouvernement a l'habitude de le dire, soit un hub logistique. Nous avions entendu ce mot-là. Vraiment, j'avais envie même de nommer l'ancien premier ministre Klassou, c'est l'homme hub logistique. Il aimait vraiment l'expression que sous son mandat, le Togo est de nouvelles compagnies. Sinon, le colonel Nyamalata a joué pleinement son rôle. Félicitations à lui.
D'accord, merci Uriel. À la tête de l'ANAC, le colonel Nyamalata a été confronté à un certain nombre de défis, surtout pendant la crise sanitaire de Covid-19. Nous le savons tous, c'était une période très compliquée pour tous les aéroports, y compris celui de Lomé. Jacques Diakouti, voilà un bilan sur lequel on peut juger le colonel Nyamalata.
Vous savez, Fousseni, si être humain que nous sommes, nous allons comprendre que la vie, c'est comme une pièce théâtrale. Chacun vient jouer sa partition et après partir. Je crois qu'on n'aura pas de problème où on peut dire que bon, certains sont venus pour ne pas partir. Parce que nous entendons souvent dire, lorsqu'on change par exemple quelqu'un d'un autre poste, on entend un peu les spéculations, soit on l'a viré, soit on l'a chassé, peut-être il a fait ci, il a fait ça. Mais vous savez, le colonel Nyamalata a été nommé à ce poste depuis 2007. Donc, il faut reconnaître qu'il a fait quand même de grandes choses. Il a innové au niveau effectivement de l'aéroport international Niassimbe Yadema. À un moment donné dans la vie, il faut savoir quand même quitter les choses avant que les choses vous quittent. Donc, je crois qu'il a joué sa partition. Et vous savez, on compare deux choses. On peut pas comparer une chose. Je crois qu'il a joué sa partition. On a nommé un autre. On verra également ce que l'autre là pourra faire par rapport au jalon que M. Dokissim Nyama a posé. Donc, je crois que dans la vie, à un moment donné, il faut même se dire qu'il y a un temps quand même pour courir, comme on le dit bien, un temps également pour s'arrêter, pour apprécier ce qu'on a fait. Vous savez, si tous les jours, vous êtes obligé, par exemple, de travailler, à un moment donné, quand même, il faut s'asseoir pour jurer effectivement du fruit du travail que vous avez eu à faire. Il ne faut pas toujours rester là, travailler. Et lorsque le moment vient pour que vous puissiez vous reposer et qu'on entende que vous êtes parti. Vous voyez que ce n'est pas du tout bien. Donc, je crois qu'il faut quand même avoir un temps. Ce n'est pas pour rien que pour ceux qui sont les chrétiens, les musulmans, on a dit souvent que Dieu a travaillé combien de jours? 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Donc, c'est pour vous dire qu'à un moment donné dans la vie de l'être humain, il faut quand même savoir s'arrêter. Et quand on court, il faut quand même savoir vraiment s'arrêter. On a vu comment M. Nyamalata courait de gauche à droite. Vous avez évoqué la question de Covid au cours de l'aéroport, au niveau de l'aéroport international Nyasimbe Yadema. Nous avons eu la chance d'accueillir souvent les étrangers qui viennent. Vous voyez le monsieur, il courait dans tous les sens. Il faut reconnaître que quand même, le Togo a été quand même un aéroport où on n'a pas eu tellement trop de problèmes. C'est vrai que les compatriotes qui rentraient accusaient les uns et les autres par rapport aux fraudes qui a eu lieu au niveau des tests et tout ça. Mais vous savez, cela ne dépendait pas de lui. Et le Covid, c'était une maladie où personne ne maîtrisait rien. Donc, à un moment donné, il faut reconnaître qu'il y avait eu un cafouillage. Mais dans ce cafouillage-là, ça a permis à ce que les gens puissent apprendre. Et cela a permis également à prendre certaines dispositions qui ne pourront plus revenir encore lorsque le Togo va vivre encore, ou bien le monde entier va vivre encore ce genre de choses. Donc, je crois que Yurel l'a si bien dit. Le monsieur, il a bossé. Je crois que quand le président a confiance en vous et il vous nomme à un poste, le plus important, c'est lorsque vous partez. L'autre qui vient, comment faire pour effectivement continuer dans les pas, les sillons que vous avez eu à poser. Donc je crois que M. Dokissim Nyamalata part avec une chaussure, peut-être. On n'aura pas à avoir peut-être un caillou dans sa chaussure. Donc je crois qu'il va marcher libre par rapport au travail qu'il a eu à faire. Félicitations à lui. Félicitations également au nouveau qui vient. Je ne le connais pas, mais j'ose croire que le travail également qu'il va faire, ça serait effectivement pour le bonheur du Togo.
D'accord. Le dernier, enfin le nouveau DG s'appelle colonel Idrissou Ahabou Abdou. Ce dernier était responsable des opérations vol à Askaï Airlines. Le nouveau DG, Didier Assogba, n'est pas nouveau dans ce secteur. Est-ce que c'est un atout pour la réussite de sa mission?
Bon, de toute façon, on ne peut pas nommer un novice à un poste aussi stratégique que la direction de l'aviation civile nationale. Donc, à partir de ce moment-là, le casting, à mon avis, est bon. Celui qui a déjà de l'expérience, il est un officier de l'armée de l'air, il maîtrise déjà le secteur, il travaille déjà, comme tu l'as dit, à Sky, responsable déjà des vols. Donc ça veut dire que il a déjà eu pendant longtemps travaillé avec le colonel partant et qu'il maîtrise certainement le secteur. C'est pour ça d'ailleurs que sur la liste il a été préféré à tous ceux qui étaient dans la course à la succession du colonel Dokissim Nyamalata. Et donc oui, ça va de soi que ça soit quelqu'un du domaine, quelqu'un qui maîtrise ce secteur assez stratégique. Quand on parle de l'aviation, on parle de l'aéroport, on parle de tout ce qui est de l'air, c'est quand même assez stratégique. Ça demande beaucoup de maîtrise, beaucoup de connaissances du secteur pour pouvoir gérer tout ça à la fois, gérer les coopérations également avec d'autres, les organisations de l'aviation civile internationale et tout ça, gérer les compagnies aériennes. Urel souhaitait d'ailleurs qu'on puisse avoir de nouvelles compagnies. Bon, voilà, je ne sais pas si ça dépendrait de lui, mais il suffit justement que les compagnies puissent trouver la destination Lomé plus très intéressante pour elles, et puis elles pourront faire les démarches. Je crois qu'il y avait eu des discussions pour que des compagnies comme Emirates et Turkish Airlines, un temps on avait eu TAP Portugal, je ne sais pas si la compagnie a continué d'arriver à Lomé, mais il y a eu des il y a même eu des discussions pour que Égyptair vienne ici. Bon, ça n'a, des discussions n'ont jamais abouti, je ne sais pas. Peut-être que ces compagnies ont d'autres canaux de s'informer sur la destination nommée, le trafic, les avantages, les bénéfices et tout ça. Mais l'aéroport de Lomé profite dans le meilleur des cas à Éthiopiens. Hein. Ils font leurs affaires. Lomé-New York, la ligne là est très stratégique pour cette compagnie là qui en profite allègrement. Et donc oui, bon vent au nouveau directeur. Que dire du colonel Nyamalata, fort à nommer, fort à repris peut-être, on dira. On attend de voir quelle va être la suite. Il a eu à faire ce qu'il a eu à faire. Bon, c'est vrai que lui seul, ses 17 ans à ce poste a dérangé un peu certains, parce que ça a été juste le commentaire. Les gens ne cherchent pas à voir ce qu'il a eu à faire. Les gens, tout le monde s'attarde sur lui seul a eu à faire 17 ans à un seul poste. Il n'a été rappelé que, enfin, il a été changé que quand il part à la retraite. Et donc, c'est juste ce qui a frappé les gens. Mais au fond, il aura peut-être le temps de dresser son bilan de ce qu'il a eu à faire, les pas qu'il a posés. On sait tout à l'heure, on sait tout de même que l'aéroport de Lomé est l'un des aéroports les plus sûrs. On a moins d'incidents sur la plateforme aéroportuaire. Félicitations à tous les acteurs et bon vent au nouveau DG.
D'accord, bon vent au nouveau DG. Huiel, pour sortir rapidement.
Oui, au nouveau DG, tout ce qu'on peut souhaiter encore, c'est de vrai efficacement pour qu'on ait plus de lignes directes que de lignes avec escale, parce que c'est très très tracassant, très fatigant lorsque vous prenez un vol avec des escales. Que Lomé puisse vraiment avoir plus de lignes directes, ça c'est très important, parce que c'est des coûts énorme qui reviennent aux voyageurs.
D'accord, merci Uriel. Passons au second sujet dans Méga Info de ce lundi. Carrefour, Bodiona, Agouen IV1 opte pour l'encombrement des voies. Lit-on à la une du journal. Uriel Nyang, on aperçoit sur la photo d'illustration deux petits panneaux qui entourent un rond-point. Et juste en face, un panneau géant placé dans un terre-plein central. Est-ce que l'article fait référence à ces différents panneaux?
Justement, vous avez fait une très belle lecture. Et cela va de pair avec le contenu de l'article. Si vous maîtrisez bien le Carrefour Bodiona, je ne sais pas si ce Carrefour a une autre dénomination. De toutes les façons, lorsque vous voulez accorder une indication à quelqu'un, vous dites Carrefour Bodiona, il maîtrise mieux que peut-être une appellation conventionnelle. Mais vous arrivez au niveau de ce Carrefour. Mais c'est étonnant que ce soit la mairie qui devrait aider plutôt les usagers de la route à franchir un carrefour avec moins de risques d'accident. C'est plutôt cette mairie qui implante des panneaux géants, de grands visuels géants, juste pour souhaiter les meilleurs vœux aux populations. Moi, je me dis que non, ça c'est pas très bien réfléchi. Excusez-moi, on implante des panneaux au terminal du terre-plein central, et lorsque vous venez par exemple de la cour d'appel ou venez du boulevard de Lyon, mais vous avez du mal à observer celui qui débouche de votre gauche ou de votre droite. Mais des accidents au quotidien, et on se demande pour quelles raisons ces panneaux sont implantés. L'année passée, c'était la même chose. Nous avons fait cas ici, et le lendemain, les panneaux étaient immédiatement dégagés. Mais cette fois-ci, ils les ont ramenés en grande pompe. Comme si, bon, nous allons les implanter, s'il y a souci, on va les dégager. Ce n'est pas du tout normal. Il y a des problèmes qu'on peut éviter. L'encombrement, je sais qu'il y a un travail actuellement qui est en train d'être fait, un travail recommandé même par le président de la République par rapport à cet encombrement des routes. Mais la mairie à Agouen IV1 ne doit pas ajouter les problèmes sur les problèmes. Je souhaite vivement, ou nous souhaitons tous vivement, que ces panneaux d'encombrement soient dégagés, parce qu'on n'a pas envie de crier qu'il y a horreur là-bas avant que les gens ne crient « Ah, mairie, viens dégager tes panneaux ». Nous avons sonné une alerte pour que le maire de la commune Agouen IV1 sache que si c'est ces services techniques qui ont implanté ces panneaux, les panneaux-là ne sont pas la bienvenue, ce n'est pas ce qui est souhaité. On n'a pas besoin de causer les accidents en voulant souhaiter bonne et heureuse année à des gens. On a beaucoup mieux à faire et on peut dégager ça, c'est de la citoyenneté aussi.
D'accord. Jacques Yakouti, c'est vrai que ces panneaux permettent aux mairies de percevoir des taxes pour le développement de leur localité, mais est-ce qu'il faut accepter tout type de panneaux dans les carrefours?
Non, je crois qu'il faut une organisation au niveau effectivement de ces panneaux. Il faut reconnaître que ces panneaux-là créent plus de problèmes au niveau de ces carrefours-là. Et l'autre aspect, vous savez, lorsqu'on, par exemple, on essaie de mettre les panneaux pour indiquer une manifestation ou bien annoncer une cérémonie qui aura lieu, après la cérémonie, quand la cérémonie même passe, vous allez voir que les affiches là sont toujours là, qui font souvent un an, deux ans, on ne les enlève pas. Bon, c'est comme si la cérémonie aura lieu encore demain. Je crois qu'il faudrait aujourd'hui que les mairies puissent s'organiser. Lorsqu'une manifestation, par exemple, finit, il faut enlever. Il faut enlever, par exemple, ces affiches. Ça ne sert à rien de laisser encore ces affiches-là qui ne représentent encore rien par rapport à ces carrefours. L'autre aspect également, il faut reconnaître que quand vous prenez certains panneaux, il faut reconnaître que surtout les panneaux lumineux qu'on essaie de voir dans la capitale où on affiche souvent certaines les communiqués, où on affiche également des événements, il faut reconnaître que ça embellit quand même la capitale. Donc reconnaître une fois encore que ce n'est pas presque ces panneaux-là qui créent problème, mais c'est les panneaux qui essaient d'encombrer souvent les carrefours-là qui créent problème. Le carrefour dont parle actuellement Uriel, au niveau du carrefour Bogona, il faut reconnaître qu'il y a trop de panneaux au niveau effectivement de ce carrefour-là. Il faudrait également, je ne sais pas si c'est la mairie, quelle mairie est là-bas, c'est quelle il faudrait également inviter ce maire-là à revoir effectivement l'implantation de ces panneaux-là au niveau de ces carrefours. Et l'autre aspect, vous savez, Fousseni, vous allez voir que la plupart de certains panneaux également, la rouille est en train de prendre ces panneaux-là. Et vous avez même peur souvent de passer au niveau de à côté de ces panneaux. Et l'autre aspect, ce que nous constatons, ceux qui vendent par exemple la ferraille, là, ils essaient effectivement de détruire certains panneaux. Parce que souvent, il faut reconnaître qu'ils ont quand même raison. Un panneau qui est penché, par exemple, où la mairie n'arrive pas à enlever, eux se disent, bon, ils vont faire le job à la place de la mairie. Et ça constitue souvent également un problème pour eux parce que on appelle ça le vol. Mais le fait que la mairie n'enlève pas, eux, ils se disent, bon, ils vont aider effectivement la mairie à enlever, mais ça leur crée une fois encore des problèmes. Donc, je crois qu'il faut une organisation. D'accord. Et je crois qu'il y a une cellule au niveau du ministère de l'administration territoriale qui est chargée de la publicité. Donc, il faudrait que cette cellule-là puisse sensibiliser effectivement les maires à contrôler l'implantation de ces panneaux-là au niveau de ces mairies-là pour que ça ne crée pas des problèmes, surtout les problèmes de visibilité. Les problèmes de visibilité par rapport aux usagers de la route. Et ça crée, il faut reconnaître, ça crée des accidents. Et l'autre aspect, vous savez, ce n'est pas toute affiche qu'il faut mettre au niveau de ces panneaux. Vous savez, il y a des hommes, vous savez, excusez-moi, peut-être que les gens ne seront pas d'accord avec moi, on essaie de mettre la photo d'une dame sur une affiche. Vous savez, il y a certains hommes, il faut reconnaître que ils ne font pas attention par rapport à leur regard. Ils fixent leur regard sur peut-être la belle dame et ils oublient qu'ils sont au volant. Ouais, donc ça crée effectivement souvent des accidents. Il faut savoir comment afficher ces genres de panneaux-là, ces genres de publicité, à quel endroit les afficher pour que ça ne crée pas trop de problèmes, que ça ne crée pas trop d'accidents au niveau effectivement de ces carrefours aussi.
D'accord. Alors, ce n'est pas toutes les voies qui sont encombrées dans la commune d'Aguenivé 1. Certaines terres pleines centrales sont aménagées pour accueillir des parkings. Alors, est-ce que ce n'est pas une meilleure façon d'exploiter ces terres pleines centrales?
Bon, terres pleines centrales et parking, je ne sais pas si c'est la même chose, mais on en a vu. Ce que tu dis là, on a vu ce qui passe par Agbalipedo.
Agbalipedo.
Oui, mais bon, c'est ça, c'est moi, perso, c'est ma lecture de voir les choses, c'est les aléas des constructions de routes chez nous. On voit moins des choses comme ça dans d'autres capitales, mais chez nous, on a opté pour cela, on a besoin, ma foi, on a besoin de beaucoup plus de chaussées plus larges, permettant à la circulation d'être beaucoup plus fluide que de laisser de grands espaces au beau milieu de la route disant que ça sert à l'affaire du parking. Moi, j'ai jamais compris cette politique là. Des gens pourront l'expliquer, mais ça, c'est ma lecture des choses. Moi, j'ai jamais compris ça. On va pas faire l'apologie de ça parce que on sait que à 16h ou 17h, si vous prenez cette route-là dont vous parlez, vous allez avoir pitié des usagers parce que il y a tellement il y a du trafic et du coup on aura besoin, vous sentez qu'on aura besoin plus de ces espaces-là pour chaussée que plutôt pour terre, plein central et pour parking, je ne sais pas même, je ne sais pas si des gens payent pour ça. Mais il faut véritablement aborder ce sujet que les confrères soulèvent d'un point de vue, de façon peut-être un peu plus posée, pour dire que nous sommes dans une phase où, depuis quelque temps, on lutte contre les accidents de circulation. Et si, pour souhaiter des vœux de nouvel an aux concitoyens, il faut plutôt mettre ces affiches-là, ces panneaux-là, dans des dispositions ou dans des positions où ces panneaux empêchent les gens d'avoir une vie un peu plus, une vue, un aperçu un peu plus global de la circulation pour savoir juger autant opportun. Ma foi, c'est pas bien si c'est des mairies même qui décident de poser ces panneaux-là qui bloquent la visibilité aux usagers de la route. Ma foi, c'est pas bien. Peut-être, il faut peut-être revoir, redéfinir comment on souhaite peut-être, comment on entreprend cette manière-là déjà de présenter les vœux aux concitoyens. Peut-être mettre des panneaux peut-être géants en haut plutôt que de les poser au niveau de terre centrale pour empêcher la vue. Il y a même beaucoup de problèmes dans beaucoup de carrefours au niveau de nos communes. Et je pense que cette année 2024, il faut peut-être que les communes essayent d'arranger. On a des feux de signalisation qui ne sont pas visibles de loin. Dans la plupart des communes, des feux qui ne sont pas visibles. Ces feux existent dans certains cas, mais ne sont pas visibles de loin. Vous arrivez là avant de savoir si le feu est en train de passer au rouge ou en train de... Voilà, vous arrivez pratiquement à la limite, à la hauteur des feux de signalisation avant de savoir quoi faire. Alors que on avait des dispositions pour dégager la vue, pour permettre aux citoyens de voir de loin, ça serait bien. Mais dans d'autres communes, au lieu peut-être de poser des panneaux, on pourrait peut-être économiser l'argent là pour opérationnaliser les feux de signalisation qui ne marchent pas. Dans plusieurs communes, il n'y a pas qu'une seule commune, on ne va pas se mettre à citer. Tous ces maires-là savent de quoi nous parlons, leurs voiries savent. Il y a la zone de... la commune des trois frontières ou la zone des trois frontières, le doyen.
C'est où ça?
Ah ben tu n'es pas l'Omé. La zone des trois frontières des communes, c'est au niveau de c'est l'Oméga là, le feu rouge de l'Oméga. Donc c'est trois communes là-bas qui se joignent. Donc là il y a la Golf 5, Golf 4, Golf 3 et ce feu-là ne marche pas depuis plusieurs mois. Et aucun maire ne lève le petit doigt pour essayer de régler ça.
D'accord.
Donc, ça, c'est le seul exemple que je préfère donner.
D'accord. Merci à vous tous. Puisque nous parlons d'Aguagnivé 1, sachez qu'à partir de ce lundi, s'ouvre le marché provisoire d'Aguagnivé sur l'espace dit terrain Togo-Grain, non loin du carrefour bleu, et peu avant ou bien très proche de l'ancien emplacement. Vous vous rappelez, ce marché a été dévasté par un violent incendie et il fallait trouver un site provisoire pour les accueillir. Rapidement, Uriel, un mot avant de passer au sujet suivant.
Oui, un site provisoire, je pense que les premiers bénéficiaires, ce n'est pas seulement les femmes commerçantes et les hommes commerçants qui iront s'installer, mais c'est nous tous. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si... votre voie d'usage c'est vers Aguayasiyeye. Nous qui passons par Aguayasiyeye pour rentrer chez nous, je vous assure que c'est du calvaire total. Alors, vous pouvez passer même plus d'une venant de Deux-Lyon et juste après Deux-Lyon, les feux tricolores qui suivent à Miamadou. À partir de là, vous pouvez passer une heure avant de rejoindre CPRP. Parce que c'est complètement la route qui est occupée par le marché actuellement. Donc s'il y a un nouveau site, nous ne pouvons que saluer la promptitude, le travail, l'urgence vu par les autorités. S'il y a vraiment un site provisoire, nous souhaitons que les femmes et les hommes accepteront de dégager pour aller s'y installer et libérer la voie.
D'accord. Jacques Couty ?
Non, je crois que c'est une très bonne chose de trouver, par exemple, une place pour ces femmes et ces hommes. Le lieu maintenant d'inviter le gouvernement à aller plus vite. Parce que moi, je crois qu'avec la reconstruction de ce marché, moi, je suggérerais par exemple au gouvernement de faire également un appel au privé. Parce qu'il y en a qui ont des moyens, qui peuvent par exemple construire des boutiques et louer ces boutiques-là à ces bonnes dames. Et pour aller au plus pressant, au plus vite, que le gouvernement ouvre par exemple un appel d'offres ou bien un appel à candidature pour ceux qui ont par exemple les moyens de pouvoir reconstruire rapidement ce marché-là, que les gens le fassent. Je crois qu'aujourd'hui, il faut quand même ouvrir les vannes, par exemple, à nos compatriotes qui ont les moyens. Il y a les compatriotes aujourd'hui qui ont les moyens de le faire. Je crois que c'est le moment où, d'inviter le gouvernement à saisir effectivement ces bonnes volontés qui ont par exemple les moyens de pouvoir reconstruire ce marché-là, de le faire en construisant par exemple des magasins. Je crois que en le faisant ainsi, je crois que le gouvernement gagnerait plus de temps à aller plus vite. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut attendre encore pour faire des prêts au niveau, par exemple, de la BAD, de faire les prêts au niveau de certaines banques, pour reconstruire ce marché-là, ça va prendre énormément de temps. Mais je crois que si aujourd'hui, on fait un appel à l'interne, à ces commerçants qui ont les moyens, à ces commerçantes qui ont les moyens pour pouvoir construire effectivement ce marché-là, vous verrez que ça va aller plus vite.
Il n'y a pas un cadre juridique dans ce sens, c'est ça le problème.
D'accord. S'il n'y a pas un cadre juridique, je crois qu'on peut ouvrir. C'est-à-dire qu'on dit que souvent, il n'y a pas une loi sans exception. Je crois que si on le veut, on peut le faire.
D'accord. Didier Sogba.
Bon, moi, c'est déjà malheureux. C'est ma première fois de me prononcer sur le sujet de ce marché.
Comme moi.
Ouais, c'est bien malheureux qu'on soit arrivé là. Et bon, c'est vrai qu'on a donné des résultats provisoires. Espérons qu'il y aura des résultats définitifs plus poussés, permettant de savoir à peu près ce qui s'est passé. Mais bon, toutes les initiatives qui se passent autour de ce malheureux incident-là, on va les saluer. Mais vous savez, de tradition élevée, je peux vous dire que bon, les marchés provisoires n'ont jamais été une réussite au Togo. Vous avez prévu les incendies du grand marché de Lomé. On a dit marché provisoire à Gbadahonou. Vous avez vu quelqu'un à Gbadahonou? Ceux qui sont là-bas, ils s'ennuient seulement. Juste là, c'est juste quelques-uns ont pris des boutiques. Le marché ne se délocalise pas. C'est tout comme le marché ne se crée pas. Bon, après, Uriel s'est réjoui, mais je crains fort que sa réjouissance ne soit
moi, je
trop.
Parce que
oui, oui, non. Ouais. Non, je sais que ça va désencombrer la voie là-bas. Oui, mais ce que explique, j'espère que tu comprends au moins. Le marché ne se crée pas, le marché ne se délocalise pas, le marché c'est comme un fétiche, quoi. Vous comprenez. Et donc, à partir de ce moment-là, ça va être un peu de tiraillement entre les bonnes dames et le gouvernement ou les autorités de la mairie, enfin de la mairie Golf,
arrivé
1 sur quelques jours, mais bon, ils essaieront de comprendre. Mais moi, je profite ici peut-être pour peut-être dans la même, oui, très rapidement, dans la même veine que le doyen Diakouti tout à l'heure dit, que je veux croire qu'on va profiter de l'occasion pour construire un vrai marché moderne là-bas à Guenivé, parce que c'est l'un des grands marchés en termes de d'activité commerciale à Lomé. C'est l'un des grands marchés aussi, à part le grand marché d'Adalato ici. Donc je veux croire qu'on va profiter cette fois de l'occasion là pour poser les jalons d'un vrai marché moderne, un marché futuriste quand même, qui permettra aux femmes, aux hommes qui vendaient dans ce marché-là, de quand même développer leurs activités.
D'accord. Merci Didier Assogba. Nous passons à un autre sujet. À l'expiration du mandat de l'actuelle Assemblée nationale, le 31 décembre dernier, et à l'annonce des prochaines élections régionales et législatives pour la fin du premier trimestre 2024, des organisations de la société civile appellent à des élections inclusives. Parmi ces organisations, Asivito, Codi Togo et LTDH. Le Canard, indépendant titre, fin du mandat des députés après la DMP des organisations de la société civile, exige un consensus politique. C'est donc ce qu'on peut lire dans le journal. Ajoutons que ces organisations demandent au chef de l'État, Fornia Singbe, l'ouverture sans délai d'un cadre de discussion très inclusif impliquant tous les acteurs de la vie sociopolitique afin de plancher sereinement et efficacement sur les conditions devant conduire à la tenue des élections libres, fiables et transparentes. Alors, il existe déjà un cadre de discussion exclusivement réservé aux partis politiques. Je parle du CPC, cadre permanent de concertation. Mais Uriel, aujourd'hui, les organisations de la société civile demandent à ce qu'on les implique aussi et pleinement dans les discussions.
Bon, tout ça, ce sont des sujets d'ordre constitutionnel, juridique, des sujets pour lesquels on risque encore de perdre le temps, des sujets pour lesquels le pays risque de rester encore dans le statu quo. Mmh. Et parce que quand vous voyez cette histoire d'élection, nos pays risquent de se résumer sur les 365 jours en ce qu'on appelle élection. Mmh. Parce que chaque jour que Dieu fait au Togo, les gens ne parlent que élection, élection, élection. Donc, le pays ne peut pas se résumer en cet événement d'élection. Il faut qu'on fasse beaucoup de choses. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui doit se faire? Qu'est-ce qui ne doit pas se faire? Qui doit être fait très vite? Moi, je pense que c'est ça qui est important. Si dans le cadre juridique, il est dit que qu'il faut associer les organisations de la société civile, il faut associer telle, il faut. Je pense que l'autorité ne doit pas se déroger de la règle. Mmh. Et ces organisations doivent être associées. Maintenant, moi, je ne maîtrise pas tous les contours d'organisation de ce type d'élections-là, mais ce que je souhaite, ces élections-là tiennent dans le cadre réglementaire, dans le temps réglementaire, que ceux-là qui doivent être élus soient élus pour aider le pays à avancer. Que ce qui ne doit pas être fait, le nombre qu'on prévoit, si ça n'arrange pas le pays, il faut qu'on étudie ça minutieusement. S'il faut garder le nombre actuel, il faut le garder. Mmh. Maintenant, si ces organisations peuvent apporter quelque chose et que cela figure dans notre constitution, je pense qu'il faut leur faire travailler avec eux. Sinon, nous ne sommes que des journalistes. Mmh. Nous jouons notre rôle ici. La phase électorale viendra et nous allons continuer par en parler.
D'accord. Jacques Yakouti, quelle est votre opinion sur la demande des organisations de la société civile?
Non, vous savez, Fousséni, il faut qu'on se dise une vérité. Lorsque vous êtes avec votre épouse et vous ne vous parlez pas, attendez-vous à ce que vous puissiez avoir tout le temps des problèmes. Parce que je ne vois pas un couple, un homme et une femme qui vivent ensemble, qui ne veulent pas se parler. Ça ne marchera pas. Aujourd'hui, si par exemple la société civile réclame une rencontre avec le père de la famille, il faut le faire. Il ne faudrait pas seulement attendre que à l'approche des joutes électorales, sans ce moment qu'on demande par exemple des rencontres. Les rencontres devaient être des rencontres tout entre le président et la société civile et les partis politiques. Je crois qu'il devait avoir quand même un couloir de discussion entre, par exemple, cette société civile et certaines personnalités de la République. Je ne sais pas si ça se fait. Si ça se fait, c'est une bonne chose. Si ça ne se fait pas, il faut quand même le faire. Parce qu'il y a souvent des questions d'ordre national qu'il faut quand même inviter certains acteurs à échanger avec le chef de l'État. La dernière fois, quand il y a eu, par exemple, l'incendie du marché au niveau de Agoé-Assiéyé. Nous avons vu le président recevoir, par exemple, les acteurs qui étaient concernés par rapport à ce marché, ce qui était vraiment une bonne chose. Donc, je crois qu'aujourd'hui, si nous voulons, avec ce monde, un monde plein de problèmes aujourd'hui, il faut anticiper par rapport à certains sujets. Avoir toujours des couloirs de discussion avec les acteurs de la société civile, les partis politiques, il faut le faire. À chaque moment, il faut le faire. Il ne faut pas souvent, je dis, il ne faut pas souvent tout le temps attendre parce qu'il y a une élection en vue et vous demander à rencontrer le chef de l'État. Mais sur des questions, par exemple, vous prenez ce qui se passe à l'intérieur de notre pays, au nord, avec les attaques tout le temps, il faudrait qu'il y ait quand même des rencontres avec le chef de l'État et la société civile pour voir dans quelle mesure, effectivement, que nous puissions avoir une union sacrée autour de nos FDS qui sont dans ces localités-là et qui font vraiment un travail nuit et jour pour que nos compatriotes qui sont là-bas puissent être protégés Donc, c'est des questions sur lesquelles il faut quand même qu'on puisse avoir des discussions avec le premier chef, qui est le chef de l'État, discuter avec lui et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour aider nos compatriotes. D'accord. Si c'est un sujet d'ordre national du pays, moi, j'ai dit, il faut ouvrir les vannes. Mmh. Il faut rentrer les gens et discuter. Ça, je ne vois pas en quoi ça va diminuer, en quoi, par exemple, ça va diluer le fait que quelqu'un est chef ou bien patron dans quelque part.
D'accord. Alors, les élections, si tout va bien, vont avoir lieu vers la fin du mois de mars prochain.
Au plus tard,
en mars prochain. Alors, Didier Sogba, si ce cadre de discussion doit se mettre en place, il va falloir aller vite pour rester dans le délai.
Bon, Uriel disait au plus tard, je ne sais pas si techniquement, dans les conditions actuelles, on peut avoir une élection avant le mois de mars.
Nous sommes en train de brûler déjà un mois.
Nous sommes en train déjà de brûler le mois de janvier. On est déjà le 8 janvier. Jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas est-ce que les élections auront lieu. On n'a pas la date des élections. Le corps électoral n'est pas encore convoqué, il y a plein de sujets encore en discussion, il y a plein d'initiatives. Le gouvernement lui-même a également jeté un pavé ou ajouté peut-être au sujet qui embrouille sur le découpage électoral dernièrement, relativement à l'augmentation du nombre de députés. On ne sait pas à quoi naturellement une augmentation va servir pour un petit comme le nôtre, où on s'est déjà amusé à morceler le pays en 117 communes, difficiles maintenant à gérer. On va encore augmenter le nombre de députés pendant qu'on projette mettre en place un Sénat pour un État qui deviendra finalement budgétivore, pour rien du tout à mon avis. Donc je ne sais pas quand est-ce que finalement ces sujets-là seront réglés, fixés, pour qu'on convoque le corps électoral, que les gens battent campagne et pour que les élections aient lieu avant fin mars. Donc ça dépendra. Donc maintenant, il revient aux autorités de dire quelle est la volonté politique dans cette affaire. 2023, on aurait pu avoir les élections. On ne sait pas pourquoi on n'a pas eu les élections. Aucune explication officielle n'a été donnée. Normalement, ça aurait dû être le cas. Et donc, si les acteurs politiques demandent finalement qu'il y ait des discussions, je ne sais pas, ça revient, comme Jacques Diakoutou le disait, au chef de l'État de dire, ok, on a peut-être eu des occasions manquées, on saisit l'occasion de discuter, mais bizarrement, notre pays a ce péché mignon de ne jamais se reconnaître en un État, à une république, quand on s'approche des élections. Quand on s'approche des élections, les tendances partisanes s'affirment de plus en plus et les possibilités de se voir, de discuter et de chercher le bien commun, de chercher l'avenir, le bien pour l'avenir du Togo, ces possibilités-là s'amoindrissent au fur et à mesure qu'on s'approche des échéances électorales. Et là, maintenant, les chapelles politiques commencent à s'afficher. Et donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourra trouver, le mécanisme pour que tous les partis politiques, toutes les pouvant apporter quelque chose pour qu'on mette en place une discussion sincère, desquelles vont sortir des résolutions sincères pour aboutir finalement aux prochaines élections. Et je rappelle qu'on a deux élections, élections régionales, élections législatives. Ça va être la première fois également dans l'histoire du pays qu'on couple ces élections-là. La population, je ne sais pas si elle est déjà éduquée pour voter à deux élections en même temps. Donc, du coup, on a beaucoup de sujets sur lesquels on devrait peut-être implémenter, trouver des solutions. Mais est-ce qu'il y a là une initiative? Parce que là, on va parler de CPC. Tous les acteurs ne sont pas membres du CPC. Certains devraient y être. N'y étaient pas parce qu'ils n'avaient pas participé à la CENAP. Puisqu'ils n'ont pas participé à la CENAP, donc naturellement, ils ne sont pas au CPC. Et l'arrêté créant le CPC ne prévoit pas qu'on puisse recevoir les organisations de la société civile et toutes les autres entités que vous citez là. Donc là, pour moi, il va falloir peut-être qu'il y ait une décision éminemment politique, peut-être directement du chef de l'État, qui fixe le cap à observer, le cap à atteindre, pour qu'on sache véritablement par où on passe pour organiser l'élection dans les meilleurs délais. D'accord. Et dans les meilleures conditions aussi.
D'accord. Uriel, pour sortir.
Au-delà de ça, ce qui est inquiétant, vous vous rappelez, nous avons connu les premières élections communales en 2019.
Oui.
En 2009, nous sommes en 2024 actuellement, ça fait déjà 5 ans. Donc ça veut dire qu'on projetterait déjà réorganiser une quelconque élection
communale. En 2025, et en même temps qu'on aura organisé l'élection présidentielle.
Voilà.
Donc d'ici 24 mois, on doit pouvoir tenir 4 élections, vous imaginez, pour un petit pays comme le nôtre.
Ça veut dire que 4 élections... en 12 mois, s'il faut le dire.
12 mois, oui.
Mais
mois,
ça va peser, ça va peser, ça va pomper le pays. Et nous risquons vraiment. Donc, vivement que les discussions, pas les discussions, mais que la loi soit respectée et que viennent après les discussions qui peuvent, proposer qu'on organise ce type d'élections-là, qu'on les mette ensemble pour éviter les dépenses énormes. Sinon, s'il faut organiser deux élections en 2024, deux élections en 2025, en principe, en 2024, ça ferait trois élections. Les communales, ce n'est pas cinq ans.
Non, c'est 2025.
Donc, deux élections en 2024, deux élections en 2025, je pense que c'est trop pour notre pays.
D'accord.
Non, je crois que, comme on l'a si bien dit, Fousséni, si on a la bonne volonté politique, on peut avancer. Sauf s'il n'y a pas une bonne volonté politique, c'est là que les choses vont traîner. Parce qu'on a dit, on devait en fait avoir une élection en 2023 qui n'a pas eu lieu. Il n'y a pas une explication qui a été donnée. On nous a dit que les élections pour cette année, ce serait le premier semestre de 2024. Aujourd'hui, nous sommes au 8 janvier. Jusqu'à on ne sait pas ce qui se passe. On a vu seulement certains partis politiques sur le terrain qui sont en train de faire des séminaires de formation et autres, mais pour déclencher effectivement la machine, on ne sait pas. L'autre aspect, vous savez, le Togo finance ces élections-là sur fonds propres. Et vous savez, financer effectivement une élection sur fonds propres, mais ça pompe. Ça
ce
pompe
n'est pas facile.
Ce n'est pas facile. Donc je crois que il faudrait ouvrir vraiment une discussion pour qu'on puisse avancer et qu'on puisse se situer. C'est vrai qu'Uriel parle de OTR, mais à un moment donné, l'OTR également sera essoufflé. Parce que si vous ne savez pas
à côté, il y a aussi des questions de développement.
Il faut construire
des routes.
Les gens risquent de fermer leur boutique, leur entreprise. Et finalement, ce à quoi vous voulez vous attendre, vous n'aurez plus effectivement...
Si tu permets, un dernier mot rapidement là-dessus, parce que c'est un sujet assez important. Et là, nous aussi, nous apportons notre part de réflexion, parce que quand ils vont se réunir, ils ne vont jamais nous inviter.
D'accord.
Donc nous disons notre part ici directement. Vous savez tout ce qu'on dit là. À part les questions de développement, là on a 4 élections d'ici 12 mois ou 13 mois si vous voulez. En dehors de tout ça, on a quand même le fils sécuritaire dehors du pays qui est assez fort. Enfin, la plupart des ressources, on a expliqué que c'est dans la lutte contre le terrorisme. Donc, à côté de la lutte contre le terrorisme, on projette faire les élections régionales qui ne sont pas si obligatoires que ça. Je ne sais pas si on peut les repousser à quelques dates. Les élections législatives, quand même, sont des élections les plus urgentes, les plus importantes d'une république, parce que c'est les élections comme un peu comme une clé de voûte qui détermine la composition de plusieurs institutions de la république. Donc, elles sont obligatoires, nécessaires. Mais est-ce que On les a pas organisés en 2023 et comme on l'a dit, il n'y a pas eu d'explication officielle. On projette les faire cette fois, mais on sait que d'ici fin mars, ça va être quand même un peu compliqué. Techniquement, compliqué. Je ne sais pas si on a les ressources pour ça. Est-ce que ça ne vaudrait pas mieux que les acteurs, les autorités, tous se mettent ensemble pour s'entendre, pour trouver un mécanisme? On en a déjà vu en 2012. On a déjà vu, il y a eu des consensus entre les acteurs politiques pour que les élections aient lieu en 2013 finalement. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un mécanisme que, si élection devrait y avoir, on puisse tenir toutes les élections à une seule date en 2025, pourquoi pas?
Quelle est la recette jusqu'en 2025?
Mais si on avait déjà trouvé un mécanisme de les maintenir en place en 2012 pour que les élections aient en 2013. Si d'autres font plus de 2 ans, plus de 3, les gens de la HAC,
on vient de les remplacer.
Merci à vous tous. Merci Didier. Nous allons entamer notre sujet. Nous allons sortir un peu du Togo. Le conflit israélo-palestinien se poursuit et s'étend même à d'autres pays de la région avec des morts et des blessés au quotidien. Les Africains qui se sentaient non concernés par ce conflit se rendent compte qu'ils ne sont pas du tout à l'abri des conséquences de cette guerre, surtout depuis que certains médias révèlent des discussions en cours entre l'État hébreu et les autorités de la République démocratique du Congo pour la déportation des habitants de Gaza dans la région de Katanga en RDC. Alors, des responsables israéliens ont en effet affirmé avoir eu des pourparlers secrets avec la RDC et plusieurs autres pays pour éventuellement accueillir les Gazaouis après la guerre. Alors, Uriel Enyang, quel est votre avis sur ce projet de déportation de la population de Gaza en RDC?
Non, Fousseni, j'avoue que je l'ai lu sur les réseaux sociaux, mais je n'ai pas tenu importance. Parce que moi-même, j'avais plein de choses dans la tête. Je n'ai pas vraiment tenu importance. Sauf que chaque chose que Dieu fait, à travers toutes les chaînes que vous connaissez, nous suivons de près l'évolution de cette guerre qui devient de plus en plus inquiétante. Parce que personne n'a jamais pensé que le conflit israélo-palestinien... On nous avait déjà enseigné la guerre israélo-palestinienne en terminale. On n'a jamais rêvé qu'un jour, cette guerre reviendrait avec une plus grosse ampleur. Aujourd'hui, ce qui m'inquiète, moi, ce n'est pas la déportation de la population gazaoui vers
la RDC.
Parce que je ne suis pas en train de voir la possibilité de la chose. C'est pas aussi facile que ça. Je ne suis pas en train de voir. Mais c'est plutôt le meurtre sur les populations au quotidien. Même les journalistes, hier même c'était deux qui sont tombés encore sous les balles des protagonistes. Père épargné, enfants, femmes, vieux, tout le monde. Mais au quotidien, ce qui se passe dans la bande de Gaza, c'est ça qui devient très inquiétant. Mais si Israël, pays reconnu comme pays de Jésus-Christ et tout ce que vous connaissez, les pasteurs en parlent, les prêtres en parlent, tout le monde, même les imams en parlent. Mais si Israël extermine cette population de la bande de Gaza, qu'est-ce que cela va donner comme suite dans l'existence de cette portion de terre qui a toujours créé conflit entre les deux portions de terre? Parce que Israël, c'est une portion de terre, pratiquement la moitié du Togo, et la Palestine, dont on ne reconnaît pas l'existence territoriale, végète encore sous le coup de balle. Mais franchement, s'il y a des pays comme les États-Unis, la Russie, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, qui pourraient s'imposer en médiateur, qu'il les fasse. Mais aujourd'hui, on ne voit pas, peut-être que c'est moi qui analyse mal, peut-être, mais je ne vois pas concrètement l'action de l'ONU dans ce conflit. Si vous voyez, vous allez m'aider ici à comprendre. Mais ce conflit, avec son ampleur aujourd'hui, je ne vois pas vraiment l'action de l'ONU. Mais lorsque le conflit entre la Russie et l'Ukraine a déclenché, ce n'était pas ceci. On voyait tout le monde courir de gauche à droite jusqu'au jour où on ne voyait plus la force de l'Ukraine. Mais aujourd'hui, on massacre une population. Je ne dis pas que l'envahissement des terroristes palestiniens sur le sol israélien était normal. Non, je ne le dis pas. Non, ça aussi c'est un crime. Mais les forces ne sont pas proportionnelles. Là, l'Israël est supérieur en armée, en tout. Mais est-ce qu'il ne peut pas trouver un terrain d'entente pour mettre fin au meurtre sur les populations? Sinon, franchement, ce n'est pas bien actuellement à regarder.
D'accord, merci Uriel. À l'annonce de cette possible déportation, certains Africains se sont demandé si l'Afrique est finalement devenue la poubelle de la planète. Rappelez-vous, Jacques Dacouti, il y a seulement 2 ou 3 ans, le Rwanda a accueilli des personnes déportées du Royaume-Uni, moyennant une compensation financière. Ces personnes vivent actuellement au Rwanda.
Vous savez, quand on parle de ce conflit entre l'Israël et la Palestine, et pour ceux qui lisent un peu la Bible, pourront vous expliquer. C'est-à-dire, c'est un conflit qui ne va pas finir aujourd'hui. Uriel parlait tout à l'heure de négociations et autres. Je vous dis, ces négociations ne vont rien aboutir. Je ne voudrais pas alarmer qui que ce soit sur cette antenne. Chacun a sa croyance par rapport à ce conflit. Et je ne voudrais pas rentrer dans ce conflit de croyances, parce que je peux dire quelque chose, quelqu'un peut croire, l'autre aussi ne peut pas croire. Nous sommes sur un média où je ne voudrais pas mettre, par exemple, ma tendance religieuse sur ce média pour créer des problèmes aux uns aux autres. Mais ce que j'ai dit, ce que je comprends de ce conflit, c'est pour vous dire que c'est l'accomplissement de quelque chose, c'est-à-dire que l'accomplissement d'une prophétie. Et comme je l'ai dit, certains pourront comprendre, certains ne pourront pas comprendre. Mais il faut reconnaître aujourd'hui, Fousséni, que nous sommes dans un monde où aujourd'hui, il ne faut plus être là pour se dire que, bon, ce qui se passe ne me concerne pas. Vous comprenez? Parce que la guerre qui sévit actuellement entre le Hamas et Israël, il faut reconnaître que ça a des répercussions en Afrique et dans le monde entier. On a parlé tout à l'heure de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est une guerre qui a des répercussions également en Afrique. Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui nous allons vivre des conflits en conflit, de guerre en guerre, et pour parler aujourd'hui d'un palliatif de paix, ça serait un truc peut-être éphémère, c'est-à-dire que peut-être une paix de 2 jours, mais après ça va encore revenir. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui que chacun d'entre nous puissions prendre nos dispositions. C'est-à-dire que là où nous sommes, il faut savoir qu'à tout moment ça peut basculer. Mais il est important que chacun vive sa vie, et la croyance à laquelle tu es attaché, il faut t'attacher à cette croyance-là, et se dire à chaque moment quand ça arrive, il faudrait effectivement que le Dieu que tu adores, ce Dieu-là puisse venir en secours et en aide.
D'accord. Didier Soba.
Bon, déjà que cette information se trouve être démentie depuis quelques heures.
Mais les médias occidentaux continuent de publier cette information.
Voilà.
Bon, allez-y,
dans,
allez-y.
Dans cette histoire ici des médias occidentaux, vous savez comment ces médias fonctionnent, naturellement. C'est des médias, c'est des outils de géopolitique, des outils de diplomatie, des outils de domination internationale, donc pour ces occidentaux-là. Officiellement, le gouvernement congolais a sorti un communiqué pour démentir cette information. Le gouvernement rwandais, le Rwanda a également cité, le gouvernement rwandais a démenti. Le Tchad a également démenti cette information. Donc finalement, il ne restait que les médias occidentaux. Peut-être que les Gazaouis iront en France et sur d'autres, voilà, dans d'autres pays occidentaux. Mais je crois que fondamentalement et techniquement, ce n'est même pas possible. Ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut prendre 2 millions d'habitants pour venir mettre au Congo ou au Tchad ou au Rwanda? Techniquement, comment est-ce que ça peut se faire? Ce n'est, 2 millions de personnes, on ne dit pas 200. 2 millions. Ça ne va pas être possible, naturellement. Et donc, plutôt que d'être dans cette distraction informationnelle, il vaut mieux que les gens œuvrent pour le retour de la paix, à mon avis. Œuvrent pour le retour de la paix. Que ceux qui enveniment la situation là-bas essayent de voilà, ceux qui essayent un peu d'armer l'une comme l'autre partie, de mettre l'huile sur le feu là-bas, essayent d'arrêter tout ça et qu'on encourage des discussions entre les partis et que, bon, voilà, les terroristes, voilà, qualifiés de terroristes, arrêtent de terroriser les autres, et que ceux qui réagissent pour avoir été terrorisés arrêtent de réagir aussi. Je pense qu'on peut trouver des couloirs de discussion si on veut véritablement avoir la paix là-bas, l'ONU et tout ce qui. Si des gens veulent vraiment la paix, je pense que d'ici la fin de semaine, on pourra parler de cette histoire au passé. Mais il faut que les États-Unis, l'Iran, la Russie, les trois là surtout, qui se battent là-bas par procuration sur terrain neutre là-bas pendant que d'autres meurent. Les gens accusent directement Israël, puisque c'est Israël. Comme hier en Ukraine, on en a vu d'autres qui combattaient la Russie sur le sol ukrainien. C'est aujourd'hui d'autres qui combattent d'autres dans cette guerre entre Israël et le Hamas. Et donc, à partir de ce moment-là, si des gens là veulent véritablement trouver la paix là-bas et que la vie des gens est importante à ses yeux, je pense que les États-Unis, la Russie, la Chine dans une moindre mesure, mais l'Iran surtout, qui a même déclaré, dont le président a déclaré il y a quelques jours que Israël sera complètement effacé, tout ça. Donc vous voyez, des choses comme ça ne contribue pas à bâtir la paix, à l'apaisement. Donc je pense fondamentalement qu'il faut trouver des couloirs de discussion pour apaiser ça.
D'accord, merci à vous tous. Nous marquons une pause et on revient.
93.5.
Nous sommes de retour. C'est le moment fatidique pour les auditeurs. Allô?
Allô?
Oui,
allô.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, c'est monsieur?
Monsieur Senghor.
Monsieur Senghor, on vous écoute.
L'évangéliste Senghor. Je salue tout le plateau.
Bonjour.
Je salue également mon grand frère Yakouti. Bon, je voudrais présenter mes félicitations que vous allez leur transmettre, monsieur Sof, pour la mission que Dieu lui a assignée à la HAC.
D'accord.
Et voilà, qu'il fasse ça bien. Bon, je n'ai pas grand chose à dire. Tout simplement, nous sommes. Je vous présente tous mes meilleurs vœux de l'année 2024 à tous les Togolais, qui compris mon grand frère, le chef de l'État, Fonia Sindé, et tout son état-major. Bon, ce qui est important que je voudrais vraiment dire ici, qui est très important, est que cette année 2024, tout ce qui prend mon frère, le président togolais, de tous les Togolais, comme un bouclier, et ils font des mauvaises choses derrière. Il y a des gens, mon frère, qui ne veulent pas que ce pays change. Ils veulent que ce pays-là soit comme ça, demeure dans cet état négatif, et ils profitent. Je voudrais leur dire, en tant qu'un serviteur de Dieu, qu'il est temps de mettre la balle à terre pour que vraiment que ce pays avance comme les autres pays dans la sous-région. Mais s'ils refusent cette année 2024, Dieu va les faire quitter. Je dis, s'ils refusent, ils s'entêtent que ça n'a qu'à rester comme ça pour que qu'ils puissent piétiner, qu'ils puissent profiter, qu'ils puissent détourner l'argent. Je dis qu'il est temps, Dieu va les faire quitter dans ce monde. Parce qu'un jour viendra, il n'y en aura pas un véhicule dans le cercueil de Senghor.
D'accord.
Il n'y aura pas un véhicule de l'argent dans le cercueil de Senghor.
D'accord. Je vous remercie. Merci, beaucoup. Monsieur Senghor. Allô? Allô? 22, 21, 33, 74, 91, 36, 63, 75. Allô? 22, 21, 33, 74, 91, 36, 63, 75. Nous attendons toujours que nos auditeurs réagissent, toujours sur nos deux numéros. Allô? Toujours pas d'auditeurs. Je rappelle encore une fois les numéros. 22, 21, 33, 74, 22, 21, 33, 74, 91, 36, 63, 75. 91, 36, 63, 75. Allô, toujours pas d'auditeur. En attendant, nous pouvons revenir au débat. Alors, Uriel, vous avez souhaité réagir avant qu'on aille à la pause sur le conflit israélien.
Non, par rapport à ce conflit, Didier était en train de dire quelque chose d'intéressant. Vous savez, techniquement, ce n'est pas du tout aisé et possible qu'on dise qu'on va déporter des millions de personnes. Et on ne sait pas si c'est par avion, par des bus terrestres ou c'est par la voie maritime et qu'on va prendre ces populations-là pour les amener en République démocratique.
D'accord, vous allez continuer, nous avons un appelant. Allô? Allô, il est reparti, poursuivez.
Donc, il faut qu'on oublie ça, karma, et il faut que les médiateurs s'imposent, même s'il y en a un médiateur.
Ah, finalement, on a un lutteur au bout du fil. Allô? Allô? Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, le plateau.
Bonjour, c'est monsieur?
Mohamed.
Monsieur Mohamed, on vous écoute. Diminue un peu le volume de votre radio.
Je suis un peu loin, même, je ne sais pas pourquoi, ça s'y peut.
Donc, allez-y maintenant.
Je voulais vous souhaiter bonne heureuse, mes vœux les meilleurs de santé, de prospérité, de bonheur, de succès dans toutes vos activités de journalisme. Allô?
Oui, on vous écoute. Merci beaucoup. On vous écoute.
Allô?
On vous écoute. Allô? Vous êtes en direct, monsieur Mohamed.
Je voulais vous souhaiter une bonne heureuse année de succès, de bonheur et de succès.
Merci beaucoup.
Merci de l'activité du journalisme et d'amour, de fraternité, de solidarité.
Merci beaucoup.
Et bon va à mon grand-père Tati Gaou. Dans ce nouveau, bon, je vais faire solution.
D'accord. Message reçu.
Mon grand-père a dit que mon grand-père d'Afoutine a dit que c'était une femme. Je ne parle pas avec lui. Elle, plutôt, Je ferai le match ça, mais je connais les gens, ils ne parlent jamais à leurs femmes. Mais la nuit, ils tannent seulement. Et ils mettent les enfants, mais ils sont ensemble. Mmh. Mais c'est le match ça quand même. Hein.
C'est juste un adage qu'il a donné. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Mohamed. Je rappelle les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler. 22 21 33 74 91 36 63 75. 22 21 33 74 91 36 63 75. Uriel, en attendant, vous allez conclure?
Non, pas conclure, non. Conclure, non. Je pense qu'on peut quitter le conflit israélo-palestinien. Pour revenir, tout à l'heure, je recevais un message d'un auditeur qui disait qu'il ne maîtrise pas bien le site délocalisé, le site de provisoire pour le marché
d'Agouassié.
Moi-même, lorsque vous avez situé ça, je n'arrive pas à me repérer tellement, Carrefour Bleu et tout ça. Je pense que c'est un peu compliqué. S'il y a quelqu'un qui maîtrise parfaitement ces sites par rapport à d'autres indications, on pouvait tous apprendre et commencer par aller s'approvisionner.
D'accord, nous profitons de recevoir un auditeur.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment
oui.
va-t-il?
Oui, c'est monsieur?
C'est monsieur Israël.
Monsieur Israël, vous êtes en direct.
Maintenant, on vous remercie pour ce que vous faites pour le Togo. Notre présentation va directement à l'endroit du père de l'Afrique, post-Banyatingbe. Et en plus, bon, c'est pour m'informer si c'est vrai ou faux. Vous m'avez dit qu'il y a certains trucs qui sont encore passés au niveau du nom du Togo. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux?
Reprenez la question. Diminuez le volume de votre radio. Reprenez la question.
C'est qu'il y a un attentat qui s'est produit au niveau du nom du Togo. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Et secondo, il faut que tous les Togolais essaient de promouvoir la solidarité au Togo.
D'accord. Merci, monsieur Israël. Alors, l'auditeur demande si nous avons appris qu'il y a un attentat. Voilà. Je ne crois pas. Personnellement, non.
Attentat où?
Non, on a vu, c'est sur les réseaux sociaux, qu'il y a une attaque à Tampialem. C'est dans Tanguare 2, le samedi passé, où les compatriotes étaient au marché et puis. On est venu les attaquer. On a vu les photos circuler sur les réseaux sociaux. Mais comme le gouvernement n'a pas communiqué.
Vous allez poursuivre tout à l'heure. Il y a un auditeur qui attend. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
C'est monsieur?
Jacques.
Monsieur Jacques, vous êtes en direct.
Ok, juste pour vous féliciter et vous souhaiter tous les meilleurs voeux.
Merci.
Merci beaucoup.
Sincèrement, votre émission, ça nous plaît. Mais le problème au Togo, c'est le... Senghor avait déjà dit ça. Il y a les gens qui sont derrière le président, ils font des choses pour l'ONU. Et sincèrement, nous voulons que ces gens changent de mentalité.
D'accord.
Parce que le Togo doit évoluer, ça va évoluer aussi. Et concernant les problèmes d'Israël et Palestine, la guerre en Israël, ça, quelqu'un avait déjà dit, un journaliste a dit, c'est quelque chose qui doit arriver. Et si ça n'arrive pas là, ce n'est pas ce que Dieu a déjà prescrit, c'est ça qui est là-bas comme ça. Donc tout le monde, les gens peuvent prier, les gens peuvent dire n'importe quoi, c'est que ça doit arriver, ça va arriver. Donc, on doit prendre pour regarder ce que c'est la volonté de Dieu, quoi.
D'accord.
C'est la volonté de Dieu.
D'accord.
Bien noté, et la suite Jacques. Aussi, c'est pour faire appel à l'État aussi, de prendre les yeux sur la zone franche au Togo.
D'accord.
Parce que la jeunesse souffre beaucoup là-bas.
D'accord. Bien noté.
La jeunesse, parce que la plupart des jeunes au Togo travaillent dans les zones francs, dans les usines. Mais leurs conditions de vie, même on a changé le SMIC, ce n'est pas toutes les sociétés qui ont changé le SMIC là-bas. Donc, je vous prie les journalistes de vraiment mettre les yeux sur ça et on va voir ce que ça peut donner.
D'accord. Merci, monsieur Jacques. Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Ici.
Ah, madame ici,
oui.
Vous êtes en direct.
Oui, vous avez parlé du marché de Gagouin, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Je ne vous ai pas trop suivi. Bon, ben, ça brûle. Les marchés brûlent depuis 10 ans, 11 ans. Et puis, on détruit nos conteneurs au bord de la route pour rien, par méchanceté. Tout est détruit dans le pays. Tout brûle jusqu'au marché de la dernière fois d'Agoué. Mais pourquoi les gouvernants ne démissionnent pas en bloc? C'est ce que je ne comprends pas. Ils ont fait 12 mandats de 5 ans. Est-ce que, bon, les gens parlent des gens autour du président. Le président a le droit de faire combien de mandats, selon vous, les Togolais, là? Ce n'est pas 2 mandats de 5 ans. Allô?
Allô, on vous écoute.
Oui, mais attendez. Même si ce n'est pas des gens qui brûlent les marchés méchamment, là. C'est la colère de Dieu. Ça brûle tout parce que les gens ne sont pas dans les normes. Il faut qu'ils respectent les lois de la République, comme partout dans le monde entier, quoi. On a dit 2 mandats de 5 ans. C'est fini, non? 60 ans! Non!
D'accord. Merci, Madame Essi, d'avoir appelé. 22, 21, 33, 74, 91, 36, 63, 75. 22, 21, 33, 74, 91, 36, 63, 75. Pas de huit heures. Pour l'instant, oui. Jacques Yakouti.
Non, je crois que Daïssi venait de dire tout à l'heure, elle parlait de la colère de Dieu qui peut brûler les marchés. Je ne crois pas. Vous savez, nous avons un Dieu d'amour, un Dieu de compassion. Et ce que ces enfants font pour survivre, je ne vois pas pourquoi Dieu va brûler cela. Mmh. Non, 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 je ne crois pas.
D'accord, nous prenons un auditeur. Allô? Allô?
Allô?
Oui, oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
C'est monsieur?
C'est Fabrice.
Monsieur Fabrice, on vous écoute. Diminuez le volume de votre radio.
J'aimerais revenir sur un point qui est un peu sensible me concernant. C'est par rapport à l'argent retrouvé chez l'un des ministres du pays. Ça finit par quoi? Que les journalistes fassent des investigations et nous éclaircissent encore un peu par rapport à ça. La population souffre. Mais quelqu'un ramasse ça, et qui fait quel travail pour gagner ça? Et maintenant, on en parle.
Ce dossier est clos depuis, monsieur Fabrice.
Non, ce n'est même pas clos. C'est devant la justice.
Devant la justice, c'est devant la justice. D'accord. Merci, monsieur Fabrice, d'avoir appelé. 22, 21, 33, 74, 91, 36, 63, 75.
Dieu ne peut pas le faire, mais l'homme peut être méchant. Mmh. Hein? L'homme peut être méchant pour aller le faire, mais Dieu ne peut pas descendre ou bien pour brûler un marché. Non, 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 je ne crois pas. Un homme méchant peut aller le faire, mais Dieu ne peut pas effectivement passer par un homme pour aller commettre ce qui s'est passé. Mais c'est la méchanceté de quelqu'un qui peut le faire.
D'accord,
de la même façon.
Oui, en attendant, Uriel, un auditeur en ligne. Allô?
Bonjour, c'est Mohamed qui revient.
Ah, ok, on vous écoute.
Je vous écoutais, vous avez parlé d'attentat à Tanger. C'est vrai. J'ai appelé le village sur le sujet, on m'a dit que c'est vrai.
D'accord.
C'est à Pierre.
D'accord. Merci pour la précision. Merci.
Alors, c'est maintenant que je suis d'accord avec Jacques Yakouti. De la même façon que Dieu ne permet pas qu'un marché soit brûlé, que ceci soit l'accomplissement de son destin, je crois aussi que ce n'est pas Dieu qui permet que le Hamas et Israël s'entretuent là-bas pour qu'on dise que Dieu avait déjà prévu. Non, je ne suis pas d'accord. Un homme méchant peut déclencher cette guerre. C'est maintenant que je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas l'accomplissement du destin de Dieu ce qui se passe là-bas. C'est autre communauté qui se retrouve et qui crée des conflits pour des intérêts qu'on ignore et qui s'entretuent chaque jour.
Ça, d'accord. C'est pas Julien, nous allons prendre un huit heures, voilà. le dernier certainement de ce jour. Allô? Allô?
Allô?
Ah oui, bonjour.
Bonsoir.
C'est monsieur?
C'est monsieur Diman.
Monsieur Diman, on vous écoute.
Oui, c'est à propos du marché brûlé. Moi, je vais vous dire que je viens de sur monsieur, comment on appelle, qui vient de finir tout à l'heure, que Dieu ne peut pas brûler le marché. Il y a la colère de Dieu aussi qui joue dans la vie. Quand un peuple est gouverné mal, il y a le Dieu de colère aussi qui peut agir.
D'accord.
Oui.
D'accord, merci. Nous, finalement, nous prenons un dernier auditeur. Il est parti. Donc, nous mettons fin aux appels de ce matin. Uriel?
Alors, vous savez que je n'avais pas eu l'opportunité de présenter mes voeux en début d'émission. Vous allez permettre que je commence par ça. Vous savez, La radio Canal FM fait un travail énorme, très énorme. Et tous les journalistes qui passent ici sont d'office partenaires à cette radio. Tout ce que nous pouvons souhaiter, que cette radio prospère davantage au cours de cette année, que tout le personnel soit en bonne santé, que vous ayez beaucoup de marchés afin que le DG revoie vos salaires.
Amen.
Et que les journalistes aussi qui passent par ici profitent de ces bénédictions-là.
Amen.
Alors, de la même façon, je souhaite une bonne et heureuse année à toute la communauté de Boufalé-Alomé et à tous les cantons de Boufalé de même. Et courage à tous ces fils-là qui se battent nuit et jour. Dieu est en train d'œuvrer pour qu'un jour la lumière soit.
D'accord, voilà, puisque vous avez toujours le micro, profitez de donner un carton si vous en avez.
Je n'ai pas un carton, mais c'est plutôt un mot de réconfort et d'encouragement et à l'endroit de tous les malades actuellement dans les hôpitaux. Si vous appartenez à des associations ou à des initiatives qui rendent visite dans les hôpitaux, vous verrez que vraiment c'est pas du tout facile. Que Dieu vienne en aide à tous ceux qui sont couchés sur les lits ou bien partout où ils se trouvent pour chercher guérison. Nous implorons la grâce divine sur eux.
D'accord. Didier Sogba.
Que dire d'autre? On a dit beaucoup de choses. Prions que ce que nous avons dit puisse contribuer à la construction de notre pays. Ce que nous voudrons, c'est que nous ayons un pays en harmonie et que les citoyens togolais soient en harmonie les uns avec les autres. Et je vais terminer par un message véritablement de réconfort aux victimes de l'incendie du marché d'Aguenivé et Aguenivé. On a dit court-circuit, moi je dirais court-circuit ou pas, ce qui est arrivé est déjà arrivé, mais n'abandonnez pas, que nos mamans là-bas n'abandonnent pas, prenez quand même le courage et défiez que ce soit court-circuit ou autre cause de cette situation. Prenez votre courage, continuez les étalages et n'abandonnez pas, parce que quelqu'un a dit tout à l'heure que Dieu ne peut pas accepter brûler les activités de ses enfants. Si Dieu a de la colère, sa colère doit forcément s'abattre sur ceux contre qui il est en colère, donc pas sur les activités de ses enfants quand même. Donc ça veut dire que Dieu regarde ce que les bonnes dames là et les bons hommes là sont en train de faire là-bas, et nous implorons la grâce et la bénédiction divine sur leur résilience, parce qu'ils n'ont pas abandonné, ils continuent d'arriver là. C'est vrai que ça va avoir des séquelles, mais l'essentiel c'est de ne pas abandonner. On tombera, mais l'essentiel c'est de se relever, de ne pas rester là-bas.
D'accord.
Donc beaucoup de courage à ces victimes-là, et beaucoup de courage à tous les jeunes Togolais qui se battent ici et là. Quelqu'un a dit les jeunes Togolais étaient paresseux, mais c'est tout le contraire, on voit. Courage à tous les jeunes Togolais. Il a salué sa communauté. Moi, je saluerai tous les Togolais, parce que tous les Togolais sont de ma communauté.
D'accord. Pas de carton, donc.
Pas de carton.
D'accord. Jacques Jacouti.
Non, je crois que, Fousseni, je ne voudrais pas, comme je l'ai dit au début, revenir sur ce débat avec Uriel par rapport au conflit en Israël. Mais je maintiens ce que je connais. Je ne voudrais pas ouvrir une discussion d'idéologie.
Moi, je ne vais même pas m'aventurer dans ça.
Il faut toute une émission pour débattre de
non,
cette
même
question.
Une émission de ce
même
soir,
ça ne suffit pas.
Bon.
Voilà. Moi, je ne voudrais pas revenir sur ça, sur cet aspect. Mais je voudrais inviter l'actuel ministre de la Sécurité à plus d'ardeur. Il faut reconnaître que les propriétaires des maisons qu'on n'invite pas sont en train de visiter une fois encore les maisons. Dans les quartiers, c'est un problème. C'est un problème. Et puis,
vous voulez parler des voleurs.
Des voleurs. Parce qu'actuellement, il fait chaud. Les gens dorment dehors et les propriétaires rentrent même dans les salons, même dans les chambres à coucher. Donc, il faudrait aujourd'hui demander une fois encore au milieu de la sécurité de redoubler une fois encore d'efforts au niveau des patrouilles pour que nos populations puissent effectivement dormir en paix. Je connais une famille où ils sont rentrés. Ils ont tout pris. Tout, ils ont tout rasé dans la maison. le monsieur s'est retrouvé seulement avec son pagne qu'il avait sur les reins, et puis c'est fini. Mmh. Ils ont tout ramassé. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est réellement passé. Est-ce qu'ils ont envoûté le monsieur? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Donc, une fois encore, monsieur le ministre de la Sécurité, invitez vos éléments à redoubler plus d'ardeur dans les quartiers par rapport à, effectivement, pour aider nos populations à dormir en paix. Mmh. Je voudrais m'arrêter en félicitant, comme les uns et les autres l'ont si bien dit, nos confrères qui ont été élus par l'Assemblée nationale pour siéger au sein de la HAC. Mmh. Félicitations à SAS, félicitations à notre ami Tchanyaou et également à Basile Agbo, parce que beaucoup ne savent pas que c'est Basile Agbo. En fait, c'est lui, c'est Basile Agbo du journal à Kéklin, qui a été également élu au niveau de l'Assemblée nationale pour siéger au niveau de la HAC, et également notre confrère Aimé Lebon, et également l'hôte de Radio Lomé, Kaoré Sambiani, qui a été également élu. Félicitations à eux. Je crois qu'ils feront un bon travail pour la presse togolaise. Je n'ai pas de carton. Une fois encore, mes meilleurs voeux à l'ensemble des Togolais et des Togolaises.
D'accord. Merci Jacques Diakouti, Uriel Enyang du journal Méga Info, Didier Assoba du journal en ligne Togo Mric News. C'est donc fini pour aujourd'hui. La technique a été assurée par Michel Tomega, mise en ligne Jérôme Akoucha. Je suis Fousseni Saïbou. Je vous retrouve demain à 11h.